On va à présent donner la parole à Judith Emery-Bruno, qui nous vient de l'Université du Québec en Outaouais, dans la ville de Gatineau, et que nous remercions d'ailleurs énormément d'être venue aujourd'hui. Judith Emery-Bruno, qui est professeure en didactique de la littérature, avec une thèse défendue intitulée « Le rapport à la lecture littéraire », pour laquelle elle a reçu un prix d'excellence, qui est également spécialiste en didactique de la poésie, et qui s'intéresse tout particulièrement, comme on le verra plus tard dans la journée, à la performance poétique et notamment au slam. Et dans cette première partie de la journée, elle va aborder la poésie telle qu'elle est enseignée au secondaire québécois. Donc je lui donne tout de suite la parole. Merci Judith.
Merci. Peux-tu m'installer? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, bonjour, je suis très ravie d'être ici aujourd'hui pour partager cette journée formidable sur les liens entre la poésie et la didactique. Bon, étant donné que je travaille en contexte québécois, je vais aujourd'hui vous parler de la poésie au secondaire québécois. Donc, ma présentation ira comme suit parce que ce que je souhaite... Ce qui est mon intention, en fait, dans le cadre de cette présentation-ci, c'est vraiment de réfléchir à la poésie en tant qu'objet d'enseignement pour voir qu'est-ce qu'il en est de cet objet, mais aussi comment les futurs enseignants, ainsi que les enseignants en exercice, conçoivent la poésie, mais aussi l'enseignent en classe. Donc, il y aura beaucoup d'écho avec la présentation qui a été faite préalablement. La seule différence, c'est que finalement, j'ai fait le choix de ne pas faire un détour par nos programmes. Cela dit, si vous avez des questions, je pourrais aussi y faire référence. Et je vais terminer en tentant de répondre à deux questions, qui est à savoir, oui, mais pourquoi enseigner la poésie au secondaire québécois? Puis, si on part de l'idée que ça peut être pertinent, bien, comment peut-on faire? Je souhaite aussi faire une petite mise au point parce que je vais faire référence au contexte du secondaire québécois. Donc, le secondaire est divisé en 5 années et ces 5 années sont subdivisées en 2 cycles. Donc, le premier cycle renvoie aux 2 premières années du secondaire et puis le 2e cycle aux 3 autres années. Et il s'agit du secondaire obligatoire pour tous les Québécois. Quant à la formation des enseignants, ils reçoivent la même formation, peu importe le cycle à l'intérieur duquel ils vont enseigner. En gros, ils n'ont pas une formation en lettres à la base. La formation, c'est 4 années d'université, composée environ de 25% de formation dans le champ disciplinaire, soit des cours de lettres et de linguistique. Environ 35% de cours qui renvoient aux sciences de l'éducation, par exemple l'histoire de l'enseignement, l'organisation scolaire, l'évaluation, et un 40% qui porte sur la formation pratique. Donc, ces cours sont des cours de didactique, des laboratoires et des stages de formation pratique. Au Québec, les futurs enseignants ont 4 stages, 1 par année de formation, le plus court 3 semaines, le dernier 10 semaines. Donc, voilà pour le contexte et les échos ou les liens, présents ou non, avec votre contexte. Alors, la poésie, mais aussi la progression dans l'enseignement, sont liées de très près. Et ça permet d'avoir une réflexion didactique fort intéressante, notamment dans le contexte québécois, mais j'ai cru comprendre que c'est la même chose ici. La poésie doit être enseignée chaque année, du primaire, chez nous, avec des comptines, des chansons, jusqu'au secondaire. On a un outil qui s'appelle la progression des apprentissages qui prescrit des genres à enseigner à chaque année du secondaire québécois. Il n'y a pas de corpus, mais il y a les genres. Par exemple, en première secondaire, c'est de la poésie ludique. En troisième secondaire, de la poésie lyrique. En quatrième et cinquième année du secondaire, de la poésie engagée, puis de la poésie classique aussi vers la fin. Donc, j'ai trouvé que c'était un angle d'analyse indéniable pour comprendre la progression des objets enseignés, mais aussi pour comprendre la formation des lecteurs, notamment à l'aide des textes de genre poétique. Toutefois, les enseignants disent, et on le voit dans plusieurs travaux, plusieurs recherches, qu'ils se sentent plus ou moins à l'aise d'enseigner la poésie. On retrouve aussi les mêmes constats, c'est très peu présent dans les classes. Les enseignants y consacrent peut-être une séquence d'enseignement dans une planification annuelle. Pour reprendre la deuxième pastille, trop souvent la poésie, comme l'a entre autres dit Jean-Louis Dufayet, ses comparses, tantôt c'est de travailler de façon techniciste, on voit réellement l'héritage entre autres du formalisme dans les classes, tantôt à l'inverse, sans aucune méthode, parce que c'est pas considéré forcément comme un objet aussi important que la grammaire, n'est-ce pas? En même temps, l'idée, c'est aussi d'aller réfléchir à cette idée de cristallisation dans les pratiques d'enseignement de la poésie qui semble encore présente à l'école. Chervel l'a montré dans son Histoire de l'enseignement du français depuis le 17e siècle. Il y a eu quand même des strates qui sont apparues et qui sont encore très présentes. Écriture d'imitation de morceaux choisis. C'est encore présent. La récitation, un petit peu moins chez nous, mais on la voit quand même. Ainsi que la lecture expliquée et la dissertation. Alors, moi, je me suis posé quand même la question, la poésie a évolué, les recherches en didactique de la littérature ont aussi évolué et progressé, la formation des enseignants a changé au fil des années, mais est-ce que les pratiques ont subi un peu ces effets-là ou au contraire, se sont-elles non seulement sédimentées, mais cristallisées dans le temps? Alors, pour aujourd'hui, mes deux questions auxquelles je vais tenter de répondre. Comment décrit-on la poésie en tant qu'objet d'enseignement? Puis quelles sont les finalités de l'enseignement de la poésie qu'on pourrait défendre comme didacticien de la littérature? Je rappelle, mais de façon extrêmement brève pour aujourd'hui, quelques postures là, de didacticien. Mon objectif, ce n'est pas d'en faire une analyse critique, c'est seulement pour situer un peu là où la plupart des didacticiens de la littérature s'entendent depuis 10 à 15 ans, comme l'a souligné d'ailleurs à la fin de son intervention Nathalie ce matin. À savoir que, globalement, la poésie, il y a vraiment cette question de lieu sensible, comme l'a souligné Michel Favriot ou Jean-Louis Dufayet dans son ouvrage « Théorie de la littérature », un ouvrage plus général, parlait quand même de matière-émotion. Il reprenait une expression de Michel Collot qui, lui, défend cette idée que la poésie, c'est aussi une expérience poétique. Et que cette fameuse expérience poétique, Nathalie Briand-Ranoux en a parlé dans sa thèse, entre autres, mais aussi dans ses autres travaux subséquents, bien, la poésie, c'est vraiment, ce sont des expériences poétiques à vivre par un sujet, le plus souvent un sujet lecteur, mais ça peut être aussi un sujet performeur, si on se place, par exemple, du côté du slam, qui, lui, est marqué d'une émotion poétique. Donc, cette idée de voir la poésie comme une expérience non seulement réflexive, mais surtout et aussi affective, et de voir ses interrelations entre les deux pôles. Voilà. Donc, qu'en est-il chez nos futurs enseignants? J'ai l'impression de me répéter comme si j'avais parlé à la place de José, à savoir que je leur ai posé la question « Oui, mais pour vous, qu'est-ce que c'est que la poésie? » J'ai demandé à une cohorte d'une trentaine d'étudiants de répondre à cette question. Ils avaient 3 semaines pour y répondre, à l'écrit, à la maison, de façon à pouvoir bien s'arrêter et se questionner. Puis, il faut dire aussi que mon intention à moi, c'était de dire, parce que j'avais entre autres observé dans ma thèse, que les futurs enseignants, lorsqu'ils se projettent dans leur pratique, se tournent beaucoup vers des pratiques enseignantes qu'ils ont vécues lorsqu'ils étaient eux-mêmes élèves et qu'ils souhaitent reproduire, des pratiques qu'ils ont valorisées, des pratiques qui, à leurs yeux, étaient pertinentes, efficaces, etc. Et en même temps, moi, je me suis dit, oui, mais en même temps, ça a comme conséquence que ces futurs enseignants sont des acteurs de la tradition scolaire, au point où la formation même, la formation didactique qu'ils reçoivent, transforme très peu leur conception. Donc, je voulais aller voir, somme toute, est-ce que ça donne quelque chose, la formation initiale, ou pas? C'est une boutade, forcément, parce que sinon, j'irais faire autre chose. Alors, je leur ai posé la question, qu'est-ce que c'était pour eux? Bon, j'ai eu plusieurs unités de sens, je n'entrerai pas en détail avec chacune d'elles ici, mais j'ai eu à peu près 12 de conceptions qui ont émergé de leur discours. Je fais surtout le point sur les 3 plus marquantes dans leur discours, à savoir que, d'abord, ils sont vraiment en ordre de priorité. D'abord, pour eux, la poésie, écrire de la poésie vise à exprimer son intériorité. La question de la poésie, ça s'inscrit vraiment dans un rapport à soi, exprimer ses émotions, creuser à l'intérieur de soi. Ça, pour eux, c'est de la poésie, c'est vraiment l'image et le travail du poète, comme je suis en train de voir notamment Maupomé écrire. Dans un deuxième temps, pour eux, lire de la poésie, c'est un défi. Un défi majeur qui s'adresse au fameux lecteur modèle. Il faut interpréter la poésie, mais les poèmes sont tellement présentent tellement un défi interprétatif important que je pourrais les citer à la manière d'Eco en disant qu'ils ressentent le besoin de combler les espaces laissés en blanc par la machine poétique, cette machine paresseuse qu'il faut aider à créer du sens. Troisièmement, c'est l'héritage formaliste. Poésie égale forme, les vers, les strophes, les figures de style, etc. Mais j'ai quand même, dans les textes que j'ai analysés des étudiants, eu une unité de sens qui m'a apparu quand même honnête, intéressante, qui est la suivante, j'ai voulu vous l'apporter. Il a dit « J'ai longtemps pensé que la poésie devait nécessairement être organisée en vers symétriques contenant des rimes. Cette conception stéréotypée, on voit qu'il y a une petite critique qui a émergé vis-à-vis de sa conception, elle a pris naissance à l'école, dans les classes de français. Quand j'ai préparé ma communication, j'ai fait « Ah, Diane, une enseignante en pratique, que j'ai interrogée. » J'ai demandé à Diane « Pourquoi c'est important d'enseigner la poésie au secondaire, à ton avis? » Elle m'a dit « C'est potentiellement le seul contact que les élèves auront avec la poésie. » Et quand je préparais ma communication, je suis notamment retournée lire un texte de Karl Canva, Georges Legros, publié en 97, il y a 20 ans, qui s'intitulait « Enseigner la poésie moderne » et qui disait ceci dès le début de leur texte, « C'est sans doute à l'école qu'on lit le plus de poésie. Une fois hors d'elle, on en lit guère. » Donc, l'école semble être le lieu où la poésie est consommée, où la poésie est expérimentée. Puis ça, même si les enseignants disent se sentir plus ou moins confortables à l'aise avec la poésie, même si les pratiques semblent cristallisées dans des approches traditionnelles et formelles, hors de l'école, point de salut. Alors, je me suis dit, les enseignants, eux, ils sont à l'école au quotidien, ils ont donc ils jouent le rôle de passeurs culturels. Qu'en est-il de leur conception? Qu'en est-il de leur pratique? J'ai interrogé à peu près une vingtaine d'enseignants du secondaire québécois dans les dernières années, environ 3 à 4 enseignants pour chaque année du secondaire québécois. Et entre autres, je leur ai demandé « Ouais, mais c'est quoi pour vous la poésie? » Et voici les conceptions les plus répandues. D'abord, et encore une fois, j'y vais par ordre d'importance qui émergeait dans leur discours, pour eux, c'est la poésie renvoie à des formes particulières de poèmes. Chez les enseignants du premier cycle, pour eux, la poésie, ça renvoie beaucoup à des formes fixes, classiques, haïkus, sonnets, fables de La Fontaine, par exemple. Au deuxième cycle, les enseignants sont un peu plus, il y a des genres éclatés quand même dans la poésie, il y a cette fameuse liberté créatrice, c'est pas toujours des formes fixes, il y a quand même de la prose, entre autres, qui existe. Deuxième conception, fortement répandue, c'est de dire, la poésie renvoie un travail quand même exigeant là, sur la langue. Au premier cycle, il y a toutes les figures de style qu'on peut voir poindre dans les poèmes, mais aussi c'est une beauté, la langue est belle dans la poésie. Au deuxième cycle, les enseignants, je l'ai mentionné un peu, ils disent « Oui, mais ce travail sur la langue permet quand même aux poètes d'avoir recours à une certaine liberté que peut-être d'autres genres ne permettent pas autant. » Troisièmement, vecteur d'expression de soi et des autres, dans la mesure où ça permet, puis vous voyez des échos avec les futurs enseignants, ça permet d'avoir accès à notre intériorité ou bien d'exprimer nos émotions. Dans un deuxième cycle, ça permet de réfléchir sur soi, mais aussi sur le monde, d'avoir d'autres visions, d'autres points de vue, etc. Premier constat, ce que je constate, c'est que leurs conceptions sont surtout tournées vers l'écriture. La place du sujet lecteur, entre autres, est très peu présente. Le sujet performeur est encore moins présent dans leur conception. On voit qu'au premier cycle, chez les plus jeunes, c'est surtout une vision traditionnelle, scolaire, qui ressort. Au deuxième cycle, ben, c'est une vision un peu plus consacrée, comme si la poésie, c'est quelque chose qui est sérieux, là. La seule distinction importante aussi, ou ajout que je peux dire, c'est que le travail sur l'interprétation, seulement les enseignants de la fin du secondaire ont mentionné que la poésie égale interprétation. Du côté des savoirs enseignés lorsqu'il est question de poésie, parce que je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez nous, les enseignants s'éloignent régulièrement des programmes et prescriptions pour faire ce qu'ils pensent être le mieux en fonction, évidemment, du contexte de classe de leurs élèves, etc. Donc, chaque année du secondaire, systématiquement, tous les enseignants me disent travailler les types de rimes, plates, croisées, etc., les règles de versification et la fameuse scansion, les figures de style à la tonne, à savoir, j'ai des enseignants de la première année du secondaire, 12 ans, les élèves doivent apprendre à peu près, je pense, c'est 18, une liste de 18 figures de style, troisième secondaire, 24, choisies par les enseignants. Ce n'est pas dans nos programmes. Dans nos programmes, il n'y a que la métaphore et la comparaison. Principaux points de distinction, premier cycle, les enseignants mettent beaucoup l'accent, entre autres, sur les champs lexicaux, ce qui s'explique par aussi le travail de compréhension en lecture. Deuxième cycle, entre autres, il y a beaucoup de travail sur le point de vue, le point de vue de l'auteur ou le point de vue présenté dans le texte. C'est sûr qu'il travaille de la poésie engagée d'une part, ça peut s'expliquer comme ça, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il travaille en parallèle le texte d'opinion aussi. On est vraiment dans la classe de français, pas une classe de littérature, donc il y a d'autres objets qui peuvent se marier avec la poésie. Pour ce qui concerne les dispositifs didactiques mis en place, j'ai l'impression de faire un copier-coller de Chervel. Écrire à la manière de, entre autres, Ronsard et de ses sonnets ou des fables de La Fontaine. Déjà au premier cycle, c'est une pratique répandue. Au deuxième cycle, on est dans différents pastiches ou de l'écriture à contrainte. La lecture expliquée au premier cycle, mais surtout dans un travail en grand groupe, discussion, questions-réponses enseignants-élèves. Les exercices écrits, appréciation critique, analyse littéraire chez les plus grands. Et les fameux examens de connaissances sur scander des vers, identifier les types de rimes, relier le nom de la figure de style à sa définition ou alors repérer des figures de style dans les poèmes. La principale distinction, c'est sur le plan de l'oral. On travaille beaucoup l'oral en écoute au premier cycle. Le slam est quelque chose qui est apparu récemment chez nous au deuxième cycle, même dans les prescriptions aussi, mais je ne vais pas m'y attarder maintenant. Ça va être l'objet de ma présentation de cet après-midi. Dernière chose, je dois souligner aussi le fait que systématiquement, les enseignants demandent aux élèves de produire une production écrite qui est évaluée, peu importe l'année scolaire, et ce, même si ce n'est pas non plus prescrit par nos programmes. Donc, on est un peu cow-boy avec nos programmes, dans la mesure où on évalue des choses qui ne nécessitent pas forcément une évaluation, qui ne font pas forcément l'objet d'une évaluation nationale, certificative ou même interne. Pourquoi enseigner la poésie? Parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire dans la classe de français, n'est-ce pas? Hein? Donc, dans un premier temps, les enseignants disent, ben, forcément, c'est pour développer la culture des élèves. On voit ici, il y a quand même un écho au fait qu'ils jouent leur rôle de passeurs culturels, du fait qu'ils sont conscients que la poésie, ben, les élèves peuvent être mis en contact avec la poésie à l'école, mais une fois hors d'elle, c'est pas certain. Deuxièmement, travailler la poésie pour travailler la langue. On est dans une classe de français, mais en même temps, lorsqu'ils mentionnent cette finalité, c'est vraiment dans le but de un peu plus instrumentaliser le travail autour des poèmes pour travailler des notions de langue ou de syntaxe ou de lexique particulière. Troisièmement, s'arrimer au programme et aux évaluations, mais bon, on n'a pas d'épreuves certificatives, mais c'est important les évaluations. C'est important d'évaluer les élèves. Donc, moi je me suis demandé, oui, mais finalement on enseigne quoi là? Est-ce qu'on enseigne la poésie ou la poésie? Est-ce qu'on enseigne de la poésie, des poèmes, des textes poétiques? C'est le français, dans le fond, qu'on enseigne avec la poésie, des attitudes, des goûts culturels. Je m'y perds un peu. Alors, Mais en même temps, je n'ai pas trouvé réponse, entre autres, à « Oui, mais comment on la lit, la poésie, là, avec les élèves? Comment on la comprend, là? » Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y en a une didactique de la poésie, hein, Nathalie? Est-ce qu'on peut militer pour une didactique de la poésie ou quand on se retrouve dans des classes de français, pas quand on est dans des classes de lettres ou là, évidemment. Alors, j'ai eu envie de vous proposer ceci. Pourquoi l'enseigner, la poésie au secondaire? Puis pourquoi, comment en faire aussi une expérience? Parce que la question d'expérience poétique, la question d'émotion poétique, la question de sujet lecteur, de sujet performeur, de sujet interprète, de l'élève qui veut s'approprier la poésie puis la faire vivre à sa manière, je ne l'ai pas trouvée présente ni dans les pratiques, ni dans les conceptions, ni dans les plans d'études ou les programmes, mais je l'ai vu et je le côtoie dans mon travail au quotidien, dans les travaux de mes camarades et collègues en didactique de la littérature. Première chose, ce n'est pas une proposition actuelle, mais qui date d'il y a 20 ans, j'ai repris les trois finalités proposées par Canva et Legros dans leur texte. Ils terminaient leur texte en 1987 en disant « Enseigner la poésie, il faudrait aussi amener les élèves à s'approprier des savoirs sociaux sur des modes de lecture, ou sur le rôle des poètes, etc., ou sur les pratiques sociales de référence. Il faut amener aussi les élèves à s'approprier des savoirs historiques sur la production de l'œuvre, par exemple, puis des savoirs langagiers. Et ce, pour leur permettre de se situer puis de s'orienter dans l'univers de la poésie. » Forcément, vous aurez compris, les savoirs sont quand même importants, peuvent être des outils. Mais j'ai des pastilles qui suivent, qui sont les suivantes. D'abord, je pense que ce serait important d'amener les élèves à apprendre à habiter le poème. Apprendre à habiter le poème, autant dans un travail de lecture ou de réécriture ou de performance, et ce, dans le but d'en faire leur propre poème de lecteur. Par exemple, quand on veut amener les élèves à apprendre à habiter le poème, c'est vraiment cette idée de dire, oui, mais apprendre à comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pourquoi ils résistent à tel poème, ou au contraire, pourquoi ils ont l'impression d'avoir eu une révélation au contact de ce poème-là. Ça peut se faire par des activités aussi concrètes que les suivantes. Par exemple, leur présenter un poème, puis leur demander de le réécrire. En donnant une consigne du type « Réécrivez ce poème en le transformant ou en le braconnant suffisamment pour exprimer à votre manière ce que vous auriez aimé voulu y lire. » En d'autres mots, faites de ce poème le vôtre. C'est vraiment ici pour travailler la lisibilité versus l'illisibilité de la poésie. Ou alors, en oral, on pourrait les amener à incarner le poème à l'aide de la voix ou du corps dans le cadre d'une performance ou dans le cadre d'une scénette, notamment, ce qui va les amener à faire corps avec le poème et réellement à l'habiter par la parole. Troisièmement, amener les élèves à cheminer à travers les expériences poétiques. Puis ici, l'idée de cheminer à travers les expériences poétiques, c'est vraiment cette idée de les amener à progresser, parce que j'ai toujours la préoccupation d'une progression au fil des degrés scolaires. Donc, les amener à progresser en tant que sujet lecteur, ou sujet performeur, ou sujet scripteur. Cheminer à travers les expériences poétiques, c'est aussi de les amener à prendre conscience de comment ils vivent chacune des expériences poétiques. Il se peut qu'une ait été vécue de façon très désagréable, très résistante, très passionnante, bon, etc. Et c'est de les amener à établir des comparaisons entre leurs différentes expériences poétiques. Par exemple, ça peut être dans le cas de débats interprétatifs qui sont mis en classe avec les élèves. Ça peut être de les amener à, par exemple, créer une partition d'un poème, à savoir annoter le poème, annoter les effets de voix, annoter la gestuelle ou la mimique pour voir comment, par exemple, un performeur ou un poète oralise son poème et voir quels sont les effets que ça crée, à la fois dans le poème, mais aussi chez eux. Ça peut être de les amener en écriture à faire des écrits intermédiaires avant d'arriver à la fameuse production finale, de dire, plutôt que de dire écrire à la manière d'eux, bien, exercer différentes stylistiques pour voir celle qui, pour eux, les amène à expérimenter de façon la plus positive ou transformatoire possible, un exercice d'écriture. Quatrièmement, les amener à apprécier différentes manifestations culturelles. Ici, c'est vraiment l'idée de les amener à porter un jugement critique, ce qui pourrait s'actualiser, par exemple, dans le cadre d'une activité à l'oral où les élèves pourraient produire une bande-annonce publicitaire pour vendre un recueil de poèmes. Ou alors, ça pourrait être d'amener les élèves à produire un message publicitaire pour annoncer une soirée de poésie ou une soirée de slam. Et finalement, dernier point, puis je vais terminer avec celui-là, c'est d'amener les élèves à transformer consciemment non seulement leur rapport au savoir et à la langue, mais aussi leur rapport à l'expérience poétique. Parce qu'à mon avis, ce serait par exemple de les amener à produire des activités d'objectivation, évidemment, de ces exercices précédents que je vous ai présentés, pour rendre compte des apprentissages qu'ils ont réalisés, mais de façon consciente, à savoir, par exemple, d'expliquer leur démarche de création lorsqu'ils auront fait différents écrits intermédiaires pour arriver à leur production finale, ou alors de mettre en place tout simplement un exposé oral, mais le but étant de partager, par exemple, leur création de différentes lectures subjectives qu'ils auront vécues en classe, ou alors etc. Le but, avec cette idée de transformer consciemment leur rapport à l'expérience poétique, c'est vraiment de déplacer l'interrogation de l'objet au sujet, à savoir que pour voir les élèves progresser, c'est peut-être pas autour des corpus qu'il y aura une réelle progression de l'élève. Là, il y a une progression de sujet à l'intérieur des corpus ou à l'intérieur du nombre, par exemple, de figures de style travaillées, mais c'est beaucoup plus du côté du sujet, quelles sont les compétences ou les capacités qu'on souhaite développer chez des jeunes de 12, 15, 16, 18 ans aussi, autant en lecture, écriture et orale. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.